Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Aligre, nous sommes en direct. Bonjour Isabelle pour l'émission Philosophie au présent.
Bonjour
Isabelle.
Nathalie, bonjour à tous.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre, Philosophie au présent, émission bimensuelle et parfois un peu plus, issue de, voilà, du partenariat entre le Collège international de philosophie et Radio Aligre. Et voilà, aujourd'hui Isabelle, on a choisi une thématique de l'homo faber à l'homo deus,
oui.
La liberté en question.
Oui.
C'est toi qui es à l'origine de cette thématique quand on a réfléchi à notre calendrier. Alors, on essaie peut-être déjà de... Je ne sais pas comment tu voulais procéder, mais qu'est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs sur l'homo faber opposé à l'homo deus? On sait que l'homo faber, il y a une origine bergsonienne. Hein, Bergson,
voilà, c'est ça, dans l'évolution créatrice.
Absolument, et dans d'autres aussi, dans la pensée et le mouvement, entre autres. Il met en question cette idée que l'intelligence serait première dans le monde, ou en tout cas une intelligence qui serait théorique, et il remet l'intelligence, la véritable intelligence, du côté de l'homme qui fabrique. En fait, ce qu'on a appelé intelligence, c'est issu de la fabrication.
Ouais.
Alors, comment tu penses cette relation de l'homo faber à l'homo deus? Quelle était un petit peu la problématique, ouais, de ta réflexion aujourd'hui qui va, auquel on va consacrer un dialogue ouvert, un entretien?
Voilà, alors de façon très simple, hein, pour ne pas perdre les auditeurs dans des concepts trop difficiles. C'est vrai que l'homo faber est une expression des œuvres de Bergson. En tout cas, quand j'ai construit le titre de cette émission, j'y ai pensé. Et c'est emprunté à ce texte de Bergson, ainsi qu'à d'autres, tu l'as rappelé. L'homme qui fabrique, l'homme artisan, l'homme qui, justement, exprime cette intelligence par des outils, des œuvres qui sont l'expression de ce rapport au monde propre à l'homme. Le langage de l'artisanat, en fait.
L'intelligence serait issue de cette intelligence fabricatrice,
voilà, c'est ça,
et non pas d'une forme d'intelligence qui serait complètement abstraite,
voilà,
du réel et du monde que les hommes construisent.
C'est une nécessité inhérente à l'homme de fabriquer, d'exprimer son rapport au monde à travers cette ensemble de choses qui viennent de lui, qui viennent de ses mains, et les mains sont le prolongement ou l'expression même de cette intelligence, Nathalie.
Et du coup, en regard de cette homo deus, comment on pense le problème de la liberté?
L'enjeu est celui-ci, car homo deus, je pensais bien sûr au titre de Yuval Noah Harari, l'historien israélien, et homo deus, c'est un homme qui sort de ses limites humaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être précise, j'entends par là un homme qui s'affranchit de tout ce qui aurait pu constituer pour lui des dépendances. Alors,
au point d'avoir un usage de la technique qui serait complètement hors de contrôle.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le feu qui a été mis dans les mains de l'homme, hein, qui est le feu de la technique, c'est une relation à son monde qui lui donne des potentialités inouïes. Mais qu'il est important de pouvoir estimer relativement à tout ce qui ne dépend pas de nous et que nous ne maîtrisons pas, qui ne nous appartient pas. Or, précisément, cet objet que l'homme fabrique lui appartient. Et dans ce mode d'appartenance, l'homme semble être investi d'une toute puissance. C'est cette toute puissance qu'il s'agira de remettre en question, parce que depuis deux siècles, l'homme s'est lui-même, en ce champ de l'artisanat devenu la technologie actuelle, l'homme s'est lui-même, au fond, donné cette puissance comme s'il était né de ce qu'il avait découvert en lui-même, et en tant que tel, il ne s'est plus senti homme, mais il s'est lui-même augmenté. Donc il a commencé à manipuler le vivant, il a commencé à vouloir dominer le temps, l'espace, l'univers. Au fond, comment est-il sorti des limites de sa condition humaine ? non de manière condamnable en tant qu'il est le chercheur qui, par désir de connaissance, tente toujours d'explorer au-delà, mais en tant que cette exploration, il s'en est senti maître et possesseur. Il a enlevé le « comme » que Descartes avait pourtant utilisé dans le discours de la méthode.
Oui, parce que ce qu'il faudrait, alors je pose des questions un peu naïves, mais cet homo deus, finalement, il se perd lui-même, il se dénature, en fait il a perdu la fabrication d'une certaine manière.
Oui, Nathalie,
il a perdu un rapport au monde. Alors tu dis l'homme est recherche, alors c'est vrai que cet homo deus, on pourrait dire qu'il arrive au summum de la recherche, mais finalement c'est la question de la finalité, elle est très très mal orientée. Sa recherche, en fait.
Voilà. Alors, quid de la liberté dans ce rapport entre homo faber et homo deus ? Eh bien, je dirais que la liberté ne peut elle-même devenir féconde et pleinement libératrice pour l'homme que si cette liberté, nous en avons un usage délibéré, au sens d'un usage discerné, bien juste. Donc orienté vers le bien. Or, qu'est-ce que le bien, sinon le bien de l'homme et le bien de son habitat, c'est-à-dire des vivants avec lesquels l'homme est appelé à entrer en relation. Vivant de la matière, vivante végétale, vivant animale, autant de manières de respecter la vie. Or, cette vie, dans la mesure où il s'en est senti le propriétaire ou qu'il a cru pouvoir lui-même posséder, eh bien, il en a fait, si vous voulez, un objet. Il l'a réifié. Et c'est là, quand on a ce type de rapport à la vie, qu'on finit par se perdre soi-même et que la liberté n'est plus une liberté, mais devient au fond une apparence de liberté, un ersatz de liberté, et une liberté qui n'est plus qu'une coquille vide ou un mot abstrait, sans chair, sans incarnation pour l'homme, puisque l'homme augmenté, et c'est la question que je voudrais poser aujourd'hui aux auditeurs, n'est-il pas un homme désincarné ? Or, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'un an nous oblige à re-questionner cette condition humaine, cette place de l'homme dans l'univers et ce rapport que l'homme à lui-même et aux autres hommes, aux autres vivants. Pourquoi ? Parce que dès lors que l'homme, dans l'idéologie transhumaniste, cherche à s'augmenter lui-même, à devenir une sorte de surhomme, un homme qui valait 3 milliards, comme aurait dit la série des années 70, n'est-il pas un homme aliéné à cette impératif de toute puissance qui l'isole des autres, qui l'isole de la dépendance et qui en fait un homme comme finalement invulnérable.
Oui.
Et justement, c'est ce concept de vulnérabilité que j'aimerais retrouver aujourd'hui, parce que pour moi, il a part essentielle à la liberté.
Oui. Alors, je reviens deux secondes sur ce que tu disais, parce que tu as employé le mot objet, et je crois que là, on touche à quelque chose de très important. Oui. C'est-à-dire, en fait, cet homo deus qui a perdu cet homo faber, qui pour quelqu'un comme Bergson est l'intelligence même. L'intelligence est fabricatrice.
La main. Chez Aristote.
Chez Aristote,
Chez Bergson.
Et chez Bergson aussi. Alors, cet homo deus, donc cet homme qui se prend pour Dieu, qui se prend à l'égal de Dieu, qui prend la figure de Dieu en tant qu'il. Et alors, quel Dieu ? Ça, c'est une autre question, on la posera après. Mais en tout cas, il prend la figure de Dieu au sens d'une domination, d'une surpuissance, d'une toute-puissance. Ce qui est intéressant, c'est que sa relation qu'il a au monde, c'est une relation objective au sens où ce qui est en dehors de lui est véritablement en dehors comme un objet dont on use. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une perte de sens et une perte de relation au monde. C'est-à-dire, à force de l'objectiver, on ne s'y inscrit plus d'une autre manière, qui serait une manière sensible, sensitive, et non pas d'une forme de rationalité dominatrice, scientifique, scientifique, technologique. Est-ce qu'on est un peu dans ce genre de réflexion? Tu vois, cette question de l'objet, ça, en même temps, c'est détaché de toi, donc du coup, tu peux l'utiliser, tu peux en user, mais tu ne fais pas avec, tu n'es pas avec. Il n'y a pas de relation. Il y a simplement de la domination, de l'usage. Il faut toujours tout utiliser.
Oui, tout consommer. Même les autres, hélas, voilà. On est en plein dans cette problématique aujourd'hui, où on voit que cette consommation d'autrui devient le prolongement de la thèse arendtienne de la banalité du mal. Tout est consommable, même le vivant.
Même autrui,
c'est terrifiant au fond.
Absolument.
C'est d'une violence inouïe et personne n'interroge cette violence. C'est quand même incroyable.
Et du coup, si on revient un petit peu à ton idée de l'homo faber et si on revient un peu vers Bergson, Bergson avait montré que finalement la force de l'homme, c'est l'intuition, c'est le développement de l'intuition.
Oui,
de,
tout à fait.
Voilà. Donc, avec cette idée d'objet, de cet usage que nous avons désormais de tout, il faut user de tout. Hein, tout doit être un usage, y compris autrui. On perd une autre relation au monde qui est une relation intuitive, sensible, de l'ordre d'une autre temporalité. Enfin,
ce sont des questions importantes qui nous engagent à retrouver le sens de notre existence dans la contemplation. Une contemplation qui n'est plus justement l'usage immédiat à court terme de quelque chose, mais l'épreuve de soi dans la durée, chez Bergson, une durée qui n'est plus reliée à quelque chose qui serait mesurable ou quantifiable, Nathalie, mais une durée qui est celle d'une temporalité nous échappant aussi.
Oui, tout à fait.
Donc,
une part inconsciente.
Voilà, une part inconsciente, une intuition, tu le disais.
Donc, un rapport intime à soi-même et aux choses.
Une conscience intime du temps. Conscience intime du temps qui se relie à l'intelligence méditante dont parlait Martin Heidegger dans son très beau texte Sérénité. La sérénité qui engage à la Gelassenheit en allemand, c'est-à-dire au laisser être une autre lumière que soi en soi. C'est une façon d'habiter le monde à partir d'une présence tout autre qui n'est plus une façon de remplir le temps comme un homme pressé d'aujourd'hui qui s'affaire à plein de choses, mais au contraire une vacance temporelle et spatiale qui implique au fond un dégagement de cet encombrement intérieur pour un espace de silence. Je pense que la contemplation, elle est très reliée au silence, Nathalie, et que le silence, l'homme moderne l'a perdu, et que dans ce silence, il y a toute l'intelligence de l'artisanat aussi, cet artisanat patient, du charpentier, du menuisier. Moi, je pense à mon papa, qui était artisan, et qui était un homme humble, qui travaillait de ses mains et qui n'avait pas l'intelligence abstraite que j'ai pu découvrir dans mes études, avec aussi beaucoup de gens pédants, très prétentieux.
Tout à fait.
Mais une intelligence revenue à quelque chose de très simple et donc de très beau. Cette simplicité, c'est comme une pauvreté que je relierais à la vulnérabilité de l'homme, parce que l'homme vulnérable, il se reçoit aussi lui-même dans une communauté d'hommes qui lui apprennent. L'artisan avant de l'être est apprenti, et l'apprenti se reçoit d'un maître qui lui-même s'est reçu d'un maître, et ce prolongement dans l'éducation, c'est une manière de dépendre d'un autre, mais sans soumission, au contraire, en revanche, avec une profonde liberté. C'est ça que je veux souligner.
Oui, alors ton exemple de l'artisan, ça fait penser à une chose, c'est que l'artisan, il a un savoir-faire qui se perd éminemment. Là, on est sur la question des deux intelligences à travers ta question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est promue une intelligence, on pourrait dire abstraite, très virtuelle, où on en a perdu presque l'usage, de nos membres que connaît encore l'artisan, celui qui fabrique avec ses doigts, toute cette gestuelle qui disparaît dans un monde qui passe par des écrans de plus en plus, qui passe par justement une absence de savoir-faire au sens de savoir user de ses mains, de développer ses facultés et de les mettre à l'œuvre.
Oui, je pense que on parlait de la crise sanitaire il y a 5 minutes. Je pense que cette crise a eu aussi, par les confinements qu'elle a induits et qu'elle induit encore, la possibilité de, elle a offert la possibilité aux hommes confrontés à leur solitude, à un espace plus restreint, à l'absence de bougeotte internationale, de retrouver des gestes simples comme faire la cuisine. Énormément de personnes se sont mises à refaire des gâteaux chez elles, à passer plus de temps à faire du bricolage. Moi, je trouve que c'est très positif. Il n'y a pas que du négatif dans cette crise, et qu'elle nous a permis de réaliser que tout était en nous si nous consentions à regarder de ce côté-là, en fait.
Oui, si on avait un autre temps.
Si on avait un autre temps. Oui. Mais le temps, nous ne l'avons pas, nous le sommes, au fond. Nous le sommes dès lors que nous redimensionnons notre vie à l'échelle de l'homme, à la mesure de l'homme, et plus à la mesure d'un surhomme imaginaire, au fond. Le transhumanisme est une autre méduse, au sens du personnage mythologique. Elle nous pétrifie parce qu'elle nous fascine, un homme augmenté, un homme extraordinaire, qui ne meurt plus, qui n'est plus malade, qui ne vieillit plus, qui est une forme d'image vide. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là qui ne souffre plus, quoi? Est-ce que ce n'est pas précisément dans la souffrance que l'homme découvre toute cette vulnérabilité qui le grandit dès lors qu'il fait autre chose de cette souffrance? Ça aussi. Et c'est là que l'on voit que dans l'épreuve d'une souffrance, quelle qu'elle soit, physique, psychologique, souffrance d'un deuil, l'autre est une présence si essentielle. Ce qui nous fait interroger des expressions de notre langage comme « prends bien soin de toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dès lors que moi toute seule, je ne peux pas prendre bien soin de moi.
Ouais, il me faut de l'autre.
L'autre est absolument nécessaire. Ouais. Or, le transhumanisme voudrait nous isoler devant un écran, nous faire voir l'autre comme un hologramme ou un virtuel. Mais l'autre, c'est une incarnation.
C'est une chair, oui.
Voilà.
Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est que le transhumanisme pour les auditeurs qui se tiendraient
Oui, c'est important parce que c'est quand même une réalité de notre temps, le transhumanisme. Alors, disons que c'est un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et techniques. Donc il s'agirait, dans ce courant de pensée, d'améliorer, d'augmenter l'homme pour augmenter le champ de ses possibilités. Plus de force, plus d'autonomie, plus de ceci, plus de cela, enfin un plus qui serait un plus qu'il se donnerait lui-même par la technique, justement. Et finalement, ce mouvement favorable au développement des technologies a 3 idées phares. Alors, la première, c'est de dire que on peut ajouter à l'ancien modèle de la médecine, Nathalie, qui a été un modèle thérapeutique, une idée d'homme hybride d'humain et de machine. Mmh. Hein, ce que la série suédoise Real Humans montrait comme des hubots, humains robots. Ouais. C'est un peu ça. Hein.
Ouais, ouais.
La deuxième idée, c'est d'augmenter la longévité humaine. Pour le moment, l'homme immortel
est encore loin,
mais il est possible d'avoir un homme immortel. Certaines personnes très riches de la côte ouest des États-Unis se font cryogéniser pour être réveillées dans 20 ans afin que les technologies puissent développer des choses qui leur permettraient de vivre plus longtemps sur Terre avec des âges bibliques ou canoniques. Augmenter la longévité humaine, bien sûr, en nous gardant en bonne santé. Donc on estime que on peut à l'heure actuelle avoir une espérance de vie pour les plus riches de 200 ans. Ensuite, la troisième grande idée que j'ai annoncée, c'est l'augmentation cognitive. Alors cette augmentation cognitive, c'est une intelligence de plus en plus performative, une intelligence qui rendrait l'homme de plus en plus savant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette perspective, on le voit, l'homme n'est plus supportable. L'homme tel qu'on l'a connu, l'homme faillible, l'homme blessé, l'homme blessable, l'homme pathétiquement ouvert, aurait dit Aristote dans le De Anima. De fait, cet homme-là n'a plus lieu d'être, puisque à terme, il faudra éliminer la mort. Alors,
là, on retrouve des grandes thématiques, notamment chez Épicure. Tu as en tête les désirs vains, non nécessaires, non naturels, qu'il faudrait absolument bannir. L'immortalité en fait partie, comme étant, et on revient à ton problème principal, comme étant vecteur d'absence de liberté. Enfin, ce sont des fabrications sociales, dirait Épicure, ce désir d'immortalité, mais il ajoute aussi le désir de l'ambition, la richesse, etc. Ce sont des désirs fabriqués par le social, par une idée de l'existence, et y adhérer, y croire, c'est se perdre. C'est perdre sa liberté, c'est devenir esclave, on pourrait dire, d'une idée qui n'est pas la sienne et qui nous emmène sur des chemins qui sont des chemins de perdition, de soi, et perdition de bonheur, puisqu'on court toujours vers un but qui n'est pas soi-même, qui n'est pas la recherche de soi ou la connaissance de soi, mais qui est, on pourrait dire, une idéologie, en fait.
Oui, et surtout une modalité d'être au monde qui se coupe d'une réalité humaine
et naturelle,
naturelle,
absolument.
C'est-à-dire qu'on veut de l'artificiel partout, on veut que tout soit prévisible, sécure. Voilà, ça c'est très, très important, on se protège partout.
C'est
c'est très intéressant cette manière de voir l'homme protégé par tous les bouts, avec des puces intégrées dans son corps pour prévenir l'éventuel bouton d'acné, enfin j'exagère à peine, le cancer, le ceci, le cela, enfin on va essayer d'éviter le plus possible la contingence. C'est très intéressant cette manière de claquemurer l'homme dans une pièce hygiénisée au maximum. C'est comme ça que je conçois le transhumanisme.
D'abolir le hasard.
D'abolir toute forme de hasard, toute forme de rencontre, puisque la rencontre sera calculée sur un ordinateur avec des algorithmes. Alors, vous ne risquerez jamais de vous tromper. Vous aurez la personne adéquate à votre psychologie, à vos désirs. Le bébé de l'avenir sera le bébé effectivement choisi sur catalogue. Non, mais c'est délirant. Donc on est complètement dans une autre manière d'appréhender la vie, là, d'appréhender le temps. C'est-à-dire qu'on devient maître de tout. Maître de l'amour, maître de la mort, maître de la rencontre, maître de l'autre. On lit dans les pensées de l'autre. Voilà, c'est irrespirable.
Oui.
On étouffe là-dedans. Où est la liberté ?
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux idées qui ressortent. Bon, tu dis, on ne veut plus de cet homme qu'on a connu jusqu'à présent, qui pourtant existe, hein, cet homme voilà, qui souffre, qui a mal, qui dit qu'il a mal, qui est malheureux, bref, qui est encore très proche de son animalité. On n'en veut plus de cet homme. Bon. Donc il y a dans la question que tu travailles, de l'homo faber à l'homo deus, la liberté en question, il y a la question même de ce que c'est qu'être homme, avec dans ce transhumanisme la négation de quelque chose qui est quand même central dans notre psyché, c'est la part inconsciente de nous-mêmes, cette idée que nous nous échappons à nous-mêmes justement, et que c'est peut-être ça aussi qui fait notre puissance, notamment notre puissance créatrice. Y aurait-il de l'art s'il n'y avait pas cette part inconsciente de nous-mêmes?
Y aurait-il
de l'amour s'il n'y avait pas cette part inconsciente de nous-mêmes? Donc cette espèce de quadrillage de nos psychés aussi bien que de nos corps, hein, dont on sent bien qu'elle est une volonté voilà, qui habite certains, c'est une manière de nier ce qu'il y a, on pourrait dire, d'incommensurable en l'homme, d'indéfinissable. En fait, ce qu'on veut, c'est arrêter l'homme, en fait, hein, d'une certaine manière. Arrêter ses devenirs et ses puissances.
Oui, et il n'y a absolument plus aussi aucun rapport à la transcendance là-dedans.
Oui, oui.
La transcendance d'autrui, telle qu'en parle Lévinas, il n'y a plus de visage.
Hein, oui.
Et il n'y a plus de Dieu. C'est l'homme qui devient homo deus lui-même.
Oui, oui.
Prend la place de Dieu. Enfin, en tout cas, tu le disais tout à l'heure, Nathalie, de quel Dieu?
On parle,
un Dieu magique, probablement, d'une toute puissance. Alors que... le Dieu auquel je pense en ce Triduum Pascal, c'est davantage un Dieu qui s'est fait vulnérabilité suprême. Un Dieu qui a renversé les images de toute puissance sur la croix, justement.
Oui.
Un Dieu qui devient précisément amour, complètement amour. Amour surabondant, amour débordant, amour miséricorde, qui vient justement exaucer, élever toutes nos misères à la dimension de sa vie. Au fond, dépendre d'un autre n'est pas une absence de liberté, c'est au contraire la chance de notre liberté. Alors que quand nous ne voulons plus dépendre de personne, c'est là que nous perdons notre liberté, précisément.
Oui, parce que c'est cette relation à l'autre qui développe aussi ce qu'on ignorait avant d'avoir cette relation à l'autre.
Vous voyez donc, chers auditeurs, comment l'étymologie même du transhumanisme nous coupe de l'humanisme qui mettait l'homme la dignité de l'homme, j'entends les textes de Marcille Ficin ou de Charles de Beauvel, la sagesse humaine, la philosophie qui la mettait au centre, et là le transhumanisme avec ce trans, ce préfixe latin qui donne le sens de passer d'ici à là, de passer à travers, de passer outre ou aller au-delà, l'idée d'un humanisme aboli. Il n'y a plus d'humanisme au sens d'une humanité noble. Il n'y a que quelque chose qui abolirait l'homme, et l'abolissant ferait advenir une sorte d'homme projeté dans un imaginaire virtuel, un imaginaire qui finalement donnerait à l'homme à l'homme d'hier une place secondaire.
Oui.
Alors que l'homme transhumanisé serait ce fameux surhomme qui aurait droit de cité.
Oui, alors évidemment on a utilisé ces termes de volonté de puissance, de surhomme, qui viennent de la philosophie de Nietzsche, mais on ne les emploie pas du tout de la même manière que Nietzsche, puisque chez Nietzsche, au contraire, la volonté de puissance et le surhomme, c'est le déploiement de virtualité, pourrait-on dire, inexistante au moment où il écrit.
C'est-à-dire, il a l'homme artiste, là.
Voilà exactement, le surhomme, c'est l'homme, ça n'a rien à voir avec le transhumanisme, donc il faut faire, et la volonté de puissance, c'est vraiment comment faire entrer l'homme dans d'autres devenirs. Or, on voit bien que le transhumanisme coupe toute relation à un autre devenir, à un devenir inconnu, mais c'est vraiment, moi je le prends sous l'idée de la définition d'un arrêt, hein, comme si on allait pouvoir enfin arrêter l'humanité, hein, l'arrêter dans, comme quand on définit un carré ou un triangle isocèle.
Enfin, on serait enfin débarrassé, hein, de l'homme vulnérable.
Oui.
Alors que ce qu'on veut montrer dans cette émission, c'est que tout l'enjeu de notre liberté s'explore à partir de cette vulnérabilité même.
Alors, qu'est-ce que tu entends par vulnérabilité ? Parce que c'est un très beau terme.
Oui.
Et aujourd'hui, on a plus que jamais, je crois, avec ce qui se passe en ce moment, la vulnérabilité, elle n'est pas bien pensée, elle n'est pas valorisée, qui plus
est. Mais comme la mort, elle est
oui,
occultée, la mort
fait.
Et la vieillesse.
Absolument.
Et la maladie.
Oui.
Au fond, ce qui est vulnérable, c'est un mot qui vient du latin déjà, qui signifie la blessure, vulnus, vulneris. Et cette blessure, c'est, je l'entends comme une blessure inguérissable en l'homme. Elle peut recouvrir plusieurs dimensions, la blessure, mais elle est profondément ontologique. C'est ainsi que je pense la vulnérabilité quand j'en parle. L'ontologie de la vulnérabilité serait précisément l'endroit même en nous qui nous échappe, l'inconscient. Moi, je n'emploierais pas ce terme d'inconscient. J'emploierais davantage la profondeur intime d'une blessure qui fait de nous un homme de désir. C'est-à-dire un homme de l'étoile manquante. Nous cherchons notre étoile, nous la pressentons en nous-mêmes, mais nous ne l'avons pas et nous ne la sommes pas. Ce qui fait la relation de désir, c'est une relation inscrite dans un manque, mais aussi dans un surcroît. Au fond, ce paradoxe vient du fait même de cette vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité creuse en nous une source qui n'est pas nous. Autrement dit, la vulnérabilité est cette vacance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette place laissée vide à la présence transcendante d'un autre, d'un tout autre, que la relation amoureuse, la relation amicale ou la relation filiale nous fait expérimenter, et la relation à Dieu, hein, pour ceux qui croient, et la relation à la nature, toute manifestation de la sensibilité humaine. L'homme de la sensibilité, l'homme qui se laisse toucher, c'est l'homme vulnérable lui-même.
Oui, qui accepte ce que l'on appelle des faiblesses, mais qui n'en sont pas.
Parce que sinon, on ne se laisse toucher par rien.
Voilà.
On n'est plus comme Dieu, justement. On devient une sorte de faux Dieu, de Dieu d'idole, au fond, car c'est ça, le faux Dieu. Un Dieu de toute puissance qui ne serait qu'une idole de pierre. Et comme le dit l'un des psaumes, l'idole a une bouche, mais elle ne parle pas. Elle a des yeux, mais ne voit pas. Au fond, c'est un être transhumaniste, l'idole, complètement désincarné. Ça fait peur.
Ouais.
C'est une sorte de golem qui a le mot de mort partout. C'est l'industrie de la mort, c'est la culture de mort, c'est le désespoir. Et c'est terrible parce que cette idole est en marche dans le monde, elle existe. Ce n'est pas juste un leurre. Et que le contrepoids à cette idole, c'est précisément notre amour. Revenir à l'amour, c'est revenir à l'homme blessable et se laisser toucher par l'autre, se laisser toucher par une larme, pleurer soi-même, c'est revenir à la source vive qui jaillit en nous. Et comment y revenir ? Sinon par le silence. Ce silence qui est au cœur de cette vigile intérieure, vigile d'une lumière qui n'est ni à nous, ni de nous, ni par nous, mais pour nous, c'est-à-dire aussi pour nous. Peut-être pour d'autres, mais nous l'ignorons, mais pour nous, certainement. Autrement dit, pour nous rassembler et pas nous désunir, pour nous simplifier et non pour nous complexifier, pour nous aimer et non pour nous haïr. au fond, ce que l'impatience transhumaniste enlève à l'homme, c'est la tendresse. Tendresse en hébreu se dit brahamin, et brahamin traduit également les entrailles ou la matrice. Et la matrice est précisément ce lieu d'accueil de l'enfant pour une femme, mais tout homme est appelé à la fécondité, homme et femme, c'est transgenre. Et cette matrice, c'est ce qui expulse l'enfant vers la vie dans une force inouïe. Et au fond, comment éprouver la maternité, la paternité dans une existence humaine, sinon précisément en entrant dans le mystère de sa vulnérabilité humaine? C'est là qu'on éprouve la présence d'une transcendance, d'une toute puissance, non au sens du transhumanisme, mais d'une toute puissance renversante, parce qu'elle vient dans l'extrême fragilité. C'est l'enfant de la crèche, Jésus à Bethléem, couché dans une mangeoire, qui rejoint Jésus crucifié sur le Golgotha et qui appelle dans ce double mystère de Noël et de Pâques la lumière de la résurrection, où l'homme est pris, élevé et transfiguré.
Alors on va revenir sur cette question de la vulnérabilité. On va passer un morceau de musique. Tu as choisi quel morceau, Isabelle?
J'ai choisi le morceau justement du milieu du film de Krzysztof Kieslowski, un film des années 80 ou 90, La double vie de Véronique. Et dans ce film, il est justement question de communion entre deux femmes, Véronica et Véronique, et l'une donne sa vie à l'autre sans le savoir. Mais dans l'intuition, l'une pressent que l'autre lui a donné sa vie. Nous ne mourrons jamais tout seuls, mais nous mourrons les uns avec les autres, et peut-être les uns à la place des autres.
Bon, alors on écoute tout de suite cet extrait musical. Voilà, nous voilà de retour. On a écouté un très bel extrait donc, d'un film, tu disais.
Oui, c'est du film. Alors, c'est Prajner, le compositeur, pardon. Et le film, c'est La double vie de Véronique, de Krzysztof Kieslowski. C'est un film polonais.
D'accord, j'ai souvenir. Voilà, c'est un très beau morceau. Alors, on reprend un petit peu sur cette question aujourd'hui. Voilà, une discussion ouverte. que tu as intitulé de l'homo faber à l'homo deus, la liberté en question, et tu parlais à l'instant de, par opposition au transhumanisme que tu tenais à aborder aujourd'hui. Donc c'est une manière de, d'augmentation de l'homme pour faire disparaître une certaine figure de l'homme, un homme qui a toujours à se découvrir lui-même. Tu lui opposais la nécessité de reconsidérer l'homme en tant qu'il est vulnérable et en tant que c'est cette vulnérabilité qui l'ouvre à l'autre, enfin, finalement qui fait de l'homme un être ouvert, un point, c'est tout, presque avec un grand O comme un concept, l'homme est ouvert. Bon, opposé au transhumanisme qui cherche, même s'il utilise l'idée d'augmentation, qui cherche au contraire peut-être à l'éteindre, à le fermer, à le définir au sens de l'arrêter. Bon, donc tu opposais à ce transhumanisme, à cette humanité transhumaniste qui concerne, cela dit, des gens qui ont beaucoup d'argent, puisque il faut qu'on rappelle quand même encore que plus de la moitié de l'humanité ne voudrait simplement que vivre un peu plus que 2 mois sur Terre, ou 3 mois, ou 10 ans, ou 5 ans. Hein, on a plus de la moitié de l'humanité qui meurt de faim, qui meurt de guerre, qui meurt des intempéries, du dérèglement climatique, etc. Donc le transhumanisme,
des maladies. Sans vaccin.
Donc le transhumanisme, c'est encore un truc de riche, et auquel tu opposes la nécessité de repenser l'homme en tant qu'il est vulnérable. Et quand je t'entendais parler, je pensais à Pascal, qui je trouve a très bien pointé cette vulnérabilité de l'homme. Alors sa force pour lui, c'est la pensée, justement, c'est d'exercer sa pensée, mais en tout cas c'est une pensée qui reste modeste chez Pascal, hein. Il s'agit toujours de tenir compte du fait que nous avons toujours un petit peu les pieds dans la terre, hein, et qu'une petite goutte d'eau peut nous éteindre, donc soyons modestes face à cette chose que nous sommes, qui est une chose finie, même si l'infinité en nous, c'est notre âme, c'est notre esprit.
Tout à fait, et je pense bien sûr au fragment des pensées, hein, 72 en Brunswick, oui. Il me semble. Qu'est-ce que l'homme dans la nature, demande Pascal, un néant à l'égard de l'infini, oui. Un tout à l'égard du néant, mais un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre le principe des choses, ce qui les anime, l'homme est finalement celui qui est remis constamment à sa place par la nature, oui. Qui le défait.
Une petite goutte d'eau qui lui apporte une petite chose et il tombe malade.
Virus invisible qui le renverse et qui renverse toute son économie, tous ses fantasmes. Et c'est très intéressant, cette leçon de la Covid-19, au fond, qui, dans son caractère invisible, dit à l'homme d'où il vient, qui il est, et ce qu'il peut espérer au-delà, justement, de ses rêves ou de ses fantasmes d'augmentation de l'homme.
Oui. Alors on revient peut-être à la question de la liberté, puisque de l'homo faber à l'homo deus, la question, la liberté en question, cet homme, en quoi peut-on réfléchir à l'idée que cet homme augmenté il perd une liberté? Alors on l'a déjà dit, une liberté de se découvrir soi-même, une liberté qui n'est plus ouverte à l'autre, qui n'est plus réflexion sur soi, qui n'est plus questionnement, qui n'est plus véritable recherche, mais domination. Je pense à l'instant à la différence que fait Rousseau entre l'amour propre et l'amour de soi. Quand Rousseau montre que cette différence, on pourrait dire, entre je prends soin de moi, mais je prends soin de moi sans nier ma vie en communauté et nier l'autre. Bon, donc il y a dans cet homme augmenté, dans ce transhumanisme, dans cet homo deus, la perte de relation avec l'autre pour un entre-soi, on pourrait dire, hein, entre moi et moi.
Oui, donc dans l'enjeu éthique qui est le nôtre actuellement, puisque nous réfléchissons à l'homme éprouvant cette liberté, je pense que l'essentiel serait de retrouver l'intelligence humaine non artificielle, justement. Une intelligence humaine dans sa complexité, sa totalité, une intelligence qui engage plusieurs dimensions, aussi bien une dimension contemplative ou méditante qu'une dimension calculante, sans s'exclure, si l'on veut. Et cette intelligence nous conduit alors à nous repositionner. Et c'est dans cette place que l'homme occupe qu'il peut parvenir à repenser, comme tu le disais à l'instant, Nathalie, cette rencontre avec lui-même, avec autrui et avec un tout autre, ou la nature. Bref, la rencontre. Et la rencontre, nous en avions parlé avant le moment musical, implique la vulnérabilité, la contingence, le hasard, autrement dit l'imprévisibilité. Et de fait, l'homme qui se laisse rencontrer, c'est l'homme qui se laisse aimer, et c'est l'homme qui se défait de sa toute-puissance. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous laisser aimer aujourd'hui ? Mais pourquoi voulons-nous alors toujours tout maîtriser, toujours tout comprendre, nous mettre en position de toute puissance ? C'est intéressant, c'est l'homo deus qui s'exprime par là, c'est-à-dire c'est l'orgueil de l'homme. Et cet orgueil est une façon de dévoyer sa liberté, c'est-à-dire de la désorienter. Or, qu'est-ce qu'une liberté pleinement libre, sinon une liberté orientée vers l'autre, l'autre de soi, l'autre autrui, l'autre tout autre.
Oui, alors
autrement dit,
oui,
je dirais, pour terminer, une liberté dialoguée. Le dialogue implique l'intelligence, justement. Cette intelligence qui ouvre l'espace du dialogue, le temps du dialogue, la patience, l'écoute, le silence, pour que l'autre puisse exister.
Oui.
Il n'y a pas que moi, quoi.
Alors, quand tu employais le terme d'artifice tout à l'heure, je pensais à une chose. Si on songe aux grandes créations de l'homme, par exemple, je pense au cinéma, je pense au théâtre, ce sont des artefacts, des artifices. C'est du faux. Mais c'est un faux dont la finalité, donc, ce sont des faux créateurs, dont la finalité, c'est en cela qu'ils sont créateurs, c'est d'enrichir la vie et d'enrichir l'existence. Or, avec ce transhumanisme, c'est à ça que l'on réfléchit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement de la vie. C'est du faux pour nuire à la vie, d'une certaine manière. C'est un appauvrissement des puissances de vie. C'est un retournement vers soi, sa propre intériorité, de soi se regardant dans le miroir, et non pas de cette production de faux qui est propre à l'homme. Le jour où il prend un matériau et qu'il transforme pour en faire un outil, il est bien dans cet artefact, dans cet artifice, dans cette fabrication, dans cette techné, qui peut être aussi une techné artistique, même en fabriquant un objet d'ailleurs.
Oui, Nietzsche l'a rappelé, l'artiste est un artisan d'abord.
Complètement, absolument. Et donc peut-être, là on touche à des questions de qu'est-ce que nous faisons de cet artefact, qu'est-ce que nous faisons de la technique, comment l'orientons-nous. Là tu as parlé tout à l'heure, tu as utilisé le terme d'orienter, c'est toute la question de l'orient. Quel horizon nous donnons à notre technique et à cette capacité qui est la nôtre de fabriquer, c'est-à-dire aussi de mettre au monde du faux, c'est-à-dire qui se sépare d'un donné ou d'une nature. Et ce faux, ça a donné le cinéma, ça donne l'opéra, ça donne le théâtre, ça donne l'artisanat, fabricateur de petits ustensiles, ça donne le tailleur de pierre, et j'en passe et j'oublie beaucoup de choses.
Bien sûr, Nathalie, tu as raison de rappeler ces dimensions de l'image et de l'imagination de l'homme, polyvalente, polymorphe, plurielle, qui prend des dimensions fécondes et belles, bonnes aussi. De fait, l'image n'est pas l'idole, car l'image ne méduse pas, l'image ne coupe pas de l'autre, elle est pour l'autre et donc aussi dans l'ordre d'une relation.
Oui, elle est rapport. Elle est rapport.
Ouais. Tout à fait. Elle est rapport de contemplation. Elle est rapport d'humanité. Elle est dialogue.
Elle est immanence.
Exactement. Une œuvre fait parler. Devant un tableau, nous parlons et nous sommes aussi interrogés, questionnés, étonnés. Et cet émerveillement des œuvres d'art, c'est une source de créativité qui rejoint la vacance intérieure dont je parlais, la source vive. Au fond, l'artiste n'est lui-même un créateur que parce qu'il se reçoit d'une lumière qu'il a su écouter, à laquelle il s'est rendu disponible. Donc, au fond, cette disponibilité de l'artiste est une vacance qui s'opère comme un laisser-être, une lumière qui n'est pas de soi ni à soi en soi. Et ce laisser-être suppose une relation. Laisser-être non pour s'endormir, mais pour transformer, pour continuer ce que l'on a reçu avec sa main, avec sa tête, avec son cœur. Voici mes mains, voici mes pieds, voici ma tête. Et voici mon cœur, voici tout l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme ? Un milieu entre rien et tout, pour reprendre Pascal. Et Pascal qui donne à l'imagination, dans la pensée 44 en La Fuma, une place si importante. Cette folle du logis n'est folle que parce qu'elle devient désorientée. Mais si nous savons l'orienter, nous pouvons en faire une faculté absolument merveilleuse, une faculté qui est le propre de l'homme. C'est l'homo imaginans, l'homme. C'est l'homme acteur pour le meilleur ou pour le pire, l'homme de la technique pour le meilleur ou pour le pire. Alors, sans bipolarité, n'est-ce pas, ou manichéisme, je dirais que s'il y a meilleur et s'il y a pire, il y a toujours recherche entre deux. C'est-à-dire que le clair-obscur de l'homo viator que nous sommes, c'est-à-dire de cet homme voyageur, implique une recherche, un désir, et que ce désir s'inscrit dans une interrogation. La liberté est une liberté qui n'est jamais acquise, mais qui est toujours l'ouvrage même de notre artisanat à remettre sur le métier.
Oui, eh bien, on va arrêter notre émission là. Voilà, on vous a proposé aujourd'hui à la discussion une thématique, voilà, qui a été proposée par Isabelle Raviolo, de l'homo faber à l'homo deus, la liberté en question. On va se retrouver dans une quinzaine de jours, le 17 avril exactement, oui, avec Christiane Voller et Philippe Bazin, pour leur ouvrage magnifique « Un archipel des solidarités » sur la Grèce de 2017 à 2020. Voilà, Christiane Voller est philosophe, elle a fait des entretiens avec des habitants en Grèce sur l'espace de solidarité qu'ils ont mis en place au moment de cette grande crise économique qu'a connue la Grèce, et les photos magnifiques de Philippe Bazin dans cet ouvrage, voilà, auquel nous ferons référence avec les auteurs eux-mêmes le 17 avril prochain.
Voilà,
merci beaucoup Isabelle, merci à tous les auditeurs d'avoir suivi l'émission. Ce soir, je mets en ligne l'émission d'il y a 15 jours. Voilà, le podcast a un petit peu tardé, mais il m'est arrivé hier, et je remercie chaleureusement les techniciens qui sont derrière la vitre et qui font un travail formidable.
Merci
auprès de
vous,
nous.
Merci à les jeunes.
Voilà, ils sont
trois jeunes.
Ouais,
extra.
Là tout à l'heure, ils étaient magnifiques.
Ils sont très beaux en plus.
Oh, voilà. Ce petit compliment du jour. Merci, ils sont derrière avec nous aux manettes, et puis ils sont là, ils sont stagiaires, ils font en sorte que l'émission fonctionne. Et hier, voilà, ils nous ont envoyé le podcast que je vais mettre. Donc je vous invite à aller sur les podcasts d'Aligre FM pour notre émission et pour toutes les émissions. Et également, on renvoie Isabelle au site du Collège international de philosophie, c'est iph.org. Voilà.
Et un petit conseil pour ce week-end de Pâques, si vous avez 2 heures devant vous, un petit conseil pour voir ou revoir un film d'Hayao Miyazaki. Bienvenue dans le monde des enfants et des adultes, Le château dans le ciel, un film des studios Ghibli d'Hayao Miyazaki sorti en 1986, long métrage fantastique qui compte les aventures de Chita, la jeune fille qui cherche à rejoindre son ancien royaume flottant, Laputa, en compagnie de Pazou. Donc de Gulliver à Miyazaki, revivez les aventures de ces deux jeunes, Pazou et Chita, dans le château dans le ciel avec la pirate Dora.
Ah, mais où est-ce qu'on voit ça? On voit pas ça au cinéma?
Non, mais c'est en streaming sur le net, Nathalie.
Bon, d'accord. Je suis complètement à l'ouest. On remercie beaucoup les techniciens, voilà, qui ont fait que cette émission a fonctionné aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci,
et on remercie tous les auditeurs de Radio Aligre. À dans 15 jours. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Écoutez Aligre FM 93.1.